hospitalier.
Présence Matin, c'est en direct du lundi au vendredi de 6h45 à 9h.
Présence.
Radio Présence, 15h.
De passage à Lourdes.
Je suis honoré de recevoir dans cette émission Ginette Colinca. Bonjour madame.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes de passage à Lourdes pour témoigner. Lorsque vous vous appelez Cherkaski, Ginette Cherkaski, nous sommes en 44 et on vous envoie à Birkenau. Votre vie bascule. Vous avez quel âge à ce moment-là?
J'avais 19 ans.
Nous allons le voir aujourd'hui, vous témoigner auprès de la jeunesse, en particulier grâce à ces professeurs d'histoire-géographie qui vous font venir dans leur classe, un peu partout en France. Et vous me disiez, chaque jour vous témoignez, chaque jour vous racontez cette horreur que vous avez vécue et que d'autres ont vécue par millions. Puisque la solution finale, eh bien, elle visait à exterminer les Juifs. Vous êtes juive, Ginette ? Vous vous considérez comme faisant partie de la famille juive. Alors cette histoire, c'est l'histoire de votre famille, d'une histoire personnelle. Qu'est-ce qui se passe pour vous en 1944 Racontez-nous un peu, on a envie de comprendre.
En 1944, naturellement, il y a l'occupation est là. J'ai été obligée avec ma famille, de quitter en 42 Paris, où nous habitions. On a été obligés de quitter Paris parce que nous étions dénoncés comme étant communistes. Et donc, la personne qui nous a prévenus, voilà, il y a des bons, il y a des moins bien, vous voyez, un nous a dénoncés, l'autre nous prévient, que nous sommes fichés, surveiller et qu'il valait mieux, si on pouvait, quitter Paris. Alors que mon père n'en avait pas du tout l'intention. On a quitté Paris pour se fixer à Avignon. Et on s'est retrouvé à Avignon en 42 et on s'est refait une vie nouvelle de 42 jusqu'en 44. Et en 44, on est de nouveau dénoncé, mais cette fois-ci comme juif. On est dénoncé comme juif. Normalement, en zone libre, les juifs étaient quand même un peu plus libres. Liberté, ça veut dire qu'on n'avait pas à porter l'étoile. Donc, il n'était pas marqué sur nous que nous étions juifs. Et quand on est arrivé en zone libre, eh bien, peut-être, je n'avoue franchement que je ne sais pas, il fallait se faire recenser aussi dans les préfectures, sous-préfectures. Et ça, on ne l'a pas fait. Donc, on a été dénoncés parce que nous étions juifs. Et c'est ça que je ne sais pas. Est-ce que si on s'était fait recenser, on aurait été arrêté ou pas? Je n'en sais rien.
Entre 42 et 44, c'est toute votre famille qui est déportée?
Toute une partie de ma famille a été déportée à cette période-là, oui.
Combien sont revenus dans ceux que vous connaissez?
Moi, toute seule.
Vous êtes toute seule?
Je suis seule à être rentrée de tous ceux qui ont été déportés.
Vous avez 92 ans. Un peu plus.
Oh non, ça suffit, 92 déjà.
Vous vous souvenez de tout?
Pas de tout, mais ce que je me souviens, c'est vraiment très très précis.
Alors, sans être indécent, vous vous souvenez de quoi? Être déporté, très concrètement. On est transporté vers un camp d'internement, on y travaille. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie à ce moment-là?
On vous enlève toute votre moi. Du jour au lendemain, vous n'êtes plus rien du tout. Pour Hitler, les Juifs, on représentait des ennemis de l'Allemagne, mais en plus, on était de la vermine, on n'était rien du tout, et ou on nous tuait, ou on nous transformait en... On représentait pas du tout un être humain pour, dans les camps. Et on nous traitait pas comme des humains.
Vous êtes à Birkenau en 1944, vous y arrivez en, au mois d'avril ?
Exact. Le 16 avril 1944, on débarque à Birkenau. C'est la dernière fois que je vois mon vivant, mon père, mon frère et mon neveu, parce que nous avons été arrêtés à quatre.
C'est quoi l'ambiance de ce camp ? Vous y travaillez ?
L'ambiance... est-ce qu'il y a une ambiance dans un endroit comme ça ? C'est la mort. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que dans ce camp de Birkenau, qui est un camp d'extermination, c'est une grande différence, extermination et camp de concentration. Extermination, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc, les nazis nous font rentrer dans ce camp, mais comme ils nous font entrer de ce camp, ils choisissent les personnes qui sont, à leurs yeux, capables de travailler. Mais quand on est capable de travailler, ils vont nous user jusqu'à la corde, et là encore, ils nous feront, il y aura des tris, il y aura encore des sélections, et de nouveau, on enlèvera les gens qui ne sont pas capables de travailler. Et c'est pour ça que tout le temps qu'on a vécu à Birkenau, on avait la mort sur nos têtes. Vous ne saviez pas si vous alliez vivre une heure avant, une heure après, un jour. Si vous pensiez, je crois que c'était celles qui ont voulu penser, eh bien, elles sont mortes. Hein. À mon avis, parce que ça c'est mon interprétation. Moi j'avais la chance, je crois, de ne pas pouvoir penser. Je vivais l'heure, la minute présente.
C'est-à-dire que vous aviez tiré le rideau ?
Je ne sais pas expliquer tout ça, mais je pense que mon cerveau ne voulait plus travailler. Et donc je disais un zombie, mais qu'est-ce que c'est qu'un zombie ? C'est une image. Hein. Alors qu'un jour, j'ai vu un robot dans une vitrine. Ben voilà, un robot, on lui met une petite cassette dans la tête, et c'est la cassette qui va le faire bouger. Et ben moi, voilà, mon cerveau ne servait plus à rien, plus à réfléchir. Il faisait ce qu'on lui demandait.
Au risque de vous choquer par ma question, je la pose quand même. Est-ce que vous y avez vu de l'humanité dans ces camps, entre vous ? Peut-être que vous avez même noué des amitiés furtives.
Enfin... Attention, moi je témoigne de ce que je ressens, de ce que je vis. Je ne peux pas parler pour les milliers de personnes qui ont vécu dans ce camp. Personnellement, moi, je n'étais pas du tout humaine, loin de là, et je ne peux pas dire que j'ai vu beaucoup de cas d'humanité. Personnellement, ils m'ont transformé, et je ne peux pas parler pour les autres.
Il vous a fallu des années et des années pour vous reconstruire, sans doute.
Je ne crois pas.
Ah bon ?
Je ne crois pas. J'ai eu la chance de retrouver alors que je pensais que tout le monde avait été arrêté après nous, eh bien, j'ai eu la chance de l'apprendre à mon retour que ma famille n'avait pas été touchée. Ils avaient été cachés, protégés, et donc j'ai eu la chance de retrouver une famille qui était libérée depuis presque un an déjà, parce que Paris a été libérée au mois d'août, donc elles ont repris la vie d'avant, au mois d'août, et moi je suis arrivée au mois de juin. Donc presque un an déjà, ils avaient repris une vie, pour ainsi dire, normale.
Donc vous nous disiez qu'une grande partie de votre famille, vous ne la reverrez plus, et une autre partie a été préservée.
Voilà, exactement. Et cette autre partie, c'était ma mère et mes sœurs.
Que vous avez retrouvées à quel endroit ? À Paris ?
Et je les ai retrouvées à Paris, parce que quand on a été libérés, moi-même j'étais encore très malade, donc je suis restée dans le camp où on m'a soignée. C'était le camp de Theresienstadt, qui avait été libéré par les Russes. Donc, quand je suis arrivée dans ce camp, eh bien, les nazis, il n'y en avait plus, et j'ai pu être soignée.
Vous arrivez donc en 1944 à Birkenau. Ensuite, vous allez partir de Birkenau vers un autre camp, qui s'appelle Bergen-Belsen.
Bergen-Belsen, oui.
Dans ce camp-là, vous y allez pourquoi ? Vous savez pourquoi on vous déplace ?
Exactement, rien du tout. On nous a emmenés là, on est resté là. Pourquoi qu'on nous a emmenés ? Pourquoi qu'on est resté ? Jusqu'à un certain moment, on est resté pour après avoir la chance, en février 45, on a la chance de partir travailler dans une usine. Cette usine, c'était à Ragun, en Allemagne. Et là, on a travaillé pour des directeurs d'usine qui travaillaient pour l'aviation. Et donc, ça a été de nouveau, pour moi, la chance de ma vie. Ça.
Ginette Kolinka, qu'est-ce que vous comprenez à cette époque-là de ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes capable de replacer ce que vous vivez dans une plus grande histoire européenne ou une solution finale ? Est-ce que vous êtes capable de ça ou bien vraiment, comme vous nous le disiez, vous avez tiré le rideau, un zombie ?
Je ne suis incapable de juger, de voir, d'expliquer, non. La seule explication, moi je dis, la humaine, la haine, c'est tout. Et le restant, ma vie a été la chance. Voilà.
Vous avez quel âge à ce moment-là, cette époque-là ?
C'est-à-dire quand j'ai été arrêtée, j'avais 19 ans. Et quand je suis revenue, j'avais 20 ans et demi.
Vous revenez dans quel état ?
Comme tous les déportés, squelettique, malade. Mais j'ai eu la chance de retrouver ma famille qui m'a aidé beaucoup à reprendre rapidement une vie normale.
Vous avez un matricule là-bas ?
J'ai un matricule et je ne l'oublierai jamais parce qu'il est marqué sur ma peau.
Nous allons nous arrêter quelques instants dans cet entretien qui est émouvant pour ceux qui vous écoutent, pour moi-même, Ginette Kolinka. Nous vous retrouvons juste après la pause pour continuer à parler avec vous, en particulier de ce témoin que vous êtes devenu, parce que vous parcourez la France pour témoigner auprès de la jeunesse, mais les autres, ceux qui vous accueilleraient. Je le disais en particulier aussi grâce au professeur d'histoire-géographie. Pour ce qui est de Lourdes, je salue Muriel Motte, enseignante en histoire-géographie, qui vous a fait venir au lycée-collège Saint-Joseph-Peyramale. À tout de suite.
Présence.
Bonjour, c'est André de Chabannes. Pour écouter le meilleur du jazz, du blues, les toutes dernières sorties d'albums, retrouvez-moi pour ce grand moment d'émotion dans Jazz à tous les étages.
Jazz à tous les étages, le vendredi à 14h04 et le samedi 22h.
De passage à Lourdes.
Nous sommes aujourd'hui dans cette émission de passage à Lourdes avec Ginette Kolinka. Madame Kolinka, vous témoignez, vous racontez une histoire douloureuse pour vous, mais douloureuse pour des millions de personnes qui ont subi la solution finale, pensée par Hitler et ses séides et son entourage pour exterminer les Juifs. Et vous, en 1944, vous vous retrouvez à Birkenau, une partie de votre famille va y laisser sa vie, vous allez en retrouver une autre partie, vous nous disiez que ça vous a permis de vous reconstruire au retour de ce camp d'extermination. Aujourd'hui, vous témoignez, Madame Kolinka, est-ce que ça sert à quelque chose ? Ma question est toute simple et toute naïve, mais quel est votre sentiment ? Ça sert de témoigner, de raconter tout ça ?
Malgré qu'on me fait, on me répète et qu'on me dit si ça sert, j'ai des doutes. Moi j'ai des doutes et je ne pense pas que ça serve à quelque chose quand on voit maintenant avec tout ce qui s'est passé et que le racisme et l'antisémitisme, je trouve, reprend beaucoup de force. Ça a toujours existé, mais c'était en sourdine. Mais maintenant, avec Internet, moi, je ne l'ai pas. J'avoue franchement que je n'ai pas internet. Quand je serai vieille, je m'y mettrai. Et donc, on me raconte ce qui se dit, ce qui se lit. Et quand je sais que des millions de personnes regardent, écoutent, que sur ces millions de personnes, il y en a quelques-uns qui vont comprendre, qui vont faire la part des choses, mais que d'autres vont prendre ça pour de l'argent comptant, eh bien oui, moi j'ai peur maintenant. Pas pour moi, mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et ça me fait peur.
Quel regard vous portez sur la nature humaine ? Vous vous dites quand même, personne ne retient les leçons de l'histoire. Je raconte depuis des années. Et toujours ce racisme, cet antisémitisme. Vous êtes un peu désabusé par rapport à la nature humaine ?
Oh, ça ne va pas jusque-là quand même. Oui. Ça ne va pas jusque-là parce que il y a des gens très très bien. Il y a des gens très bien. Il y a des jeunes très 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 bien. Mais on parle toujours d'une minorité qui n'est pas bien. Et ça, vous savez, cette façon de dire... Et ça m'arrive aussi d'ailleurs, mais je me reprends, déjà si tout le monde se reprenait, ça voudrait dire qu'on réfléchit un peu, c'est de dire les, mettre tout le monde, les jeunes, les ci, les ça.
Les juifs.
Les juifs, oui, exactement, ça aussi, mais les juifs, mais les arabes et les noirs. Et les... On met des sacs et tout le monde dans le même sac. Et c'est ça qui m'énerve. Parce que quand vous dites les noirs sont ci, les musulmans sont ça, les juifs sont ça, mais non, c'est pas les. Il y a des salauds partout, mais il y en a des très très bien partout aussi. Alors, ne mettons pas tout le monde dans le même sac.
Donc il faut continuer à témoigner, Ginette.
Je crois que égoïstement, si ça fait du bien à quelqu'un, c'est à moi. Je rencontre justement, ça me fait du bien, je rencontre des professeurs qui nous font venir et qui sont extraordinaires. Ceux qui sont moins extraordinaires, eh ben on ne les voit pas. Parce que vous avez des professeurs qui ne font venir personne. C'est du travail de nous faire venir. Il faut organiser et bien demander à cette dame le travail qu'elle se donne pour me faire venir. Non seulement qu'elle se donne, mais en plus elle me reçoit. Non, c'est du travail. Et moi, j'ai des petits-enfants qui n'ont jamais eu personne dans leur établissement, qui, dans leur classe, tout au moins, qui ont fait venir quelqu'un. Ils n'ont jamais dit qu'ils avaient une grand-mère qui était survivante, mais personne n'est venu. C'est du travail dans un établissement pour vous faire venir, vous savez.
Je relève ce que vous venez de dire. Vous venez de dire... Une grand-mère survivante, vous considérez toujours que vous êtes survivante ? Vous êtes une survivante ?
Ben oui, je suis une survivante. Moi, je ne dis même pas survivante. Moi, je dis je suis quelqu'un qui a eu de la chance. Parce que on nous parle de qualité, enfin, on me parle de qualité, courage, volonté. Mais pas du tout. Pas du tout. Pour moi, en tous les cas, ce n'est pas du tout question de courage et de volonté. Moi, je parle de chance. On est réduit immédiatement, ils se sont servis de leur intelligence, parce que justement encore hier je témoignais, il y a un jeune homme qui m'a dit « Mais pourquoi vous vous êtes pas rebellé, vous étiez beaucoup ?» Mais ils ont eu la méthode pour nous réduire en rien du tout. Ils avaient une bonne méthode. On vous met nu, on vous enlève vos cheveux, on vous enlève toute votre personnalité, tout de suite. Tout de suite. Vous n'êtes plus rien après. Hein.
Justement, les enfants, les jeunes aujourd'hui, vous posent quelles questions lorsque vous racontez ?
Ils ont beaucoup de difficultés déjà à trouver des questions. Hein. Mais les questions, c'est sur le travail qu'on faisait. Ce qui est bizarre... Vous en avez très, très, très peu qui vous demandent la nourriture. C'est moi qui en parle, souvent, mais ils ne posent pas de questions là-dessus. Hein. Ils ne posent pas de questions sur l'hygiène.
Oui.
Ils sont tellement habitués à ouvrir un robinet et à avoir de l'eau que jamais on vous dit « Est-ce que vous aviez soif ? Est-ce que vous aviez faim ?» Je n'ai jamais de questions comme ça. Hein.
Et vous avez eu soif souvent?
Ben, on a toujours eu soif. Il n'y avait pas d'eau. L'eau qu'il y avait, ce n'était pas potable. Alors on la buvait quand même. Hein. Et l'eau qu'on trouvait, c'était de l'eau dans une flaque d'eau. Moi-même, je ne sais pas comment ça se fait que je suis là. Je raconte des choses, je les revis et je me dis comment qu'on a pu faire. Je ne sais pas.
Tout à l'heure, je vous posais cette question sur comment on fait pour se reconstruire après ça. Vous avez 20 ans, 22 ans quand vous sortez, vous revenez à la maison.
Mais j'avais 20 ans.
Mais comment on fait pour se reconstruire? Vous dites, mais ça s'est fait comme ça, j'ai eu de la famille.
Voilà.
Tout de même.
Moi, je dis, c'est parce que moi, j'ai eu la chance de retrouver ma famille. Mais je me mets à la place de ces personnes, des jeunes qui rentrent, qui n'ont plus personne, qui n'ont... Les appartements, quand on a été arrêté, ont tous été vidés. Et repris. On n'était pas des propriétaires, on était des locataires. Donc, le propriétaire reprenait son appartement et le louait à qui il demandait. Vous avez des jeunes ou des moins jeunes qui sont rentrés sans savoir où aller. Vous avez des jeunes qui n'avaient aucun métier, qui sont rentrés, ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de toit, ils n'ont pas de métier. Il y avait les associations qui étaient là justement pour s'occuper de ces personnes-là. Mais une association, on les soigne, on les habille, on leur apprend un métier. Et allez maintenant, débrouille-toi toute seule. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu une famille qui était là, qui m'a accueilli les bras ouverts, qui m'a chouchouté. Moi, j'aurais pu vivre à leur crochet pendant des années et des années. On ne m'aurait pas dit, non, Ginette, il serait peut-être temps que tu te mettes au boulot. Non, c'est moi qui n'avais pas ce caractère-là. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, ça y est, maintenant, il faut que je me mette au travail. Et ça, c'est là encore, j'ai eu de la chance. Je n'ai pas eu à chercher, ça s'est refait tout seul. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez fait ensuite?
Moi, j'ai fait les marchés. J'avais été à bonne école. Hein. D'abord, j'avais déjà commencé quand on était à Avignon, en zone libre. J'avais commencé à faire ça. Et puis, quand je suis rentrée, eh bien, je me souviens que le médecin qui me soignait m'a dit « Va pas travailler dans les bureaux. » Non, c'était mon métier, normalement. Choisis la vente, tu seras en contact avec les gens, tu seras obligé de parler, comme ça, tu seras pas dans tes pensées. Et ça s'est fait que j'ai fait les marchés. J'avais été à bonne école avec Hitler, hein, par tous les temps dehors, le froid, la pluie, la neige, la chaleur. Donc j'ai fait les marchés.
C'est spécial comme humour, Ginette. Vous avez été à bonne école avec Hitler.
Je peux pas dire autrement, hein.
Vous vendiez quoi sur les marchés?
La bonneterie.
Vous aviez le bagou, la pêche, l'énergie, les arguments.
Non.
Non,
j'étais pas une bonne commerçante.
Ah, pourtant.
Bah oui, bah j'ai vécu avec. J'avais la chance d'avoir de la marchandise qui plaisait.
Quelle
mais
modestie.
Sinon, c'est pas par mon bagou. Non. Moi, j'étais pas une très bonne commerçante.
À 92 ans, quand même, vous avez de la répartie. Alors, on s'imagine à 25 ans.
J'en avais certainement moins.
Ah bon?
Ah bah certainement. J'étais complexée, j'étais timide, j'étais. Mais il y a l'âge qui compte, vous savez. C'est agréable de vieillir. On peut se permettre d'être moins timide. On est moins complexé. On n'a pas peur de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce que je vais dire. Non, c'est chouette d'être vieille.
Aujourd'hui, ce qui vous tient, ce qui vous fait vivre, c'est la famille, c'est le témoignage, parce que vous. Je vous le disais, vous parcourez la France quand même. Vous n'avez pas une minute à vous.
Exact. C'est
qu'est-ce qui vous
ça.
Fait tenir? Vous écrivez? Vous racontez?
Non. Moi, je n'écris pas. Il y a par contre un écrivain, un journaliste qui a écrit mon histoire. Je vais faire la publicité, tiens. Et vraiment, il l'a écrit d'une façon extraordinaire, originale. Et... je ne m'attendais pas du tout à avoir un livre comme ça quand il est venu m'interroger. Et moi, je le conseille à tout le monde. Parce que c'est une histoire de déportés, on les connaît tous, tout le monde les connaît, tout le monde croit les connaître.
Tout le monde croit.
Mais par contre, quand on lit son livre, eh bien, bravo, Philippe Dana, tu as très très bien raconté mon histoire d'une façon originale.
Philippe, si vous nous écoutez, vous voyez, Ginette Kolinka est enchantée de ce livre que j'ai entre les mains là. Donc signé Philippe Dana, Ginette Kolinka, une famille française dans l'histoire, paru chez Kero. Merci beaucoup Ginette Kolinka. On ne peut pas tout dire parce que vous auriez tellement à raconter. Pour terminer tout de même, vous allez continuer à témoigner autant que possible, même si des fois vous avez l'impression que ça ne sert pas à grand-chose.
Je témoignerai jusqu'à ce que mon corps ne puisse plus le faire. Ma tête, elle pourra toujours le faire, peut-être. Enfin, j'espère. Hein. Mais je m'arrêterai que le jour où je ne pourrai plus bouger, marcher, voilà.
On vous souhaite bon vent. Je rappelle cet ouvrage, Ginette Kolinka, une famille française dans l'histoire, paru chez Kero. Lisez-le, vous comprendrez mieux le parcours d'une famille française dans l'histoire et en particulier dans cette dramatique déportation qu'ont vécu beaucoup de personnes. Merci à vous. On vous souhaite bon retour chez vous. Et puis après, vous avez déjà un autre voyage de prévu, Ginette,
oui.
Un autre déplacement. Bon, à bientôt. Et merci à cette professeure ou à ces professeurs qui vous font venir dans les établissements et en particulier au collège lycée Saint-Joseph-Péramal de Lourdes. Au revoir.
Passage à Lourdes.
Présence.
Chaque semaine, dans Et Dieu dans tout ça, James Combépine nous propose de partir à la rencontre d'une personne, qu'elle soit croyante ou incroyante, pour aborder ensemble son rapport à l'homme, à la vie, à la spiritualité et à Dieu. Et Dieu dans tout ça,
tous les dimanches à midi.
Misery.
Veillez à vous.